On va pas attendre Alison, hein, elle est encore en retard.
Elle est pas en retard, elle viendra pas. Elle me l'a dit hier soir.
Attends, tu veux dire qu'on est plus que deux pour tout le service? Tu pouvais pas le dire avant?
Mais tu vas te calmer, j'y suis pour rien, moi.
Non, mais à deux, on va pas s'en sortir.
Écoutez, moi je sors d'une garde très difficile. On a une longue journée devant nous, il faut la rassurer, donc si vous voulez bien, on en reparlera plus tard.
Voilà, c'est un extrait de la série Hippocrate diffusée sur Canal+, et qui raconte le quotidien de jeunes internes en médecine, un quotidien souvent difficile, Louise Rambert.
Oui Mathieu, je crois qu'on peut dire qu'ils ont l'air un peu au bout du rouleau, ouais. Hein, ces internes dans l'extrait. Alors on savait déjà que les professionnels de santé étaient plus touchés que d'autres par ce qu'on appelle le burn-out, ou le syndrome d'épuisement professionnel. Mais une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Affective Disorders met pour la première fois des chiffres précis sur ce mal qui ronge les médecins, et ils sont très inquiétants. Alors les chercheurs ont compilé 37 études sur le sujet, incluant 15 000 médecins français, et ils nous apprennent que presque un médecin sur deux, 49% précisément, souffre d'au moins un symptôme caractérisant le burn-out. Et ce chiffre grimpe même au-delà dans certaines spécialités pour atteindre 57% chez les urgentistes. Nous sommes en duplex avec Marseille, avec le docteur Guillaume Font, un des auteurs de l'étude. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital La Conception et enseignant-chercheur à la Timone à Marseille. Alors, un médecin sur deux, ça paraît énorme. C'est un chiffre que vous pensiez trouver en vous attelant à ce travail?
Non, on ne s'attendait pas du tout à des chiffres aussi importants. On avait des études précédentes qui signalaient une prévalence du burn-out qui était importante chez les médecins. Mais on a trouvé un chiffre considérable, donc 1 sur 2 en burn-out, 1 sur 20 en burn-out sévère. Et ce sont des chiffres qui sont similaires, par exemple, à ceux des États-Unis où les médecins sont soumis à d'autres contraintes que n'ont pas les médecins français. Donc on ne s'attendait pas du tout à des chiffres aussi élevés.
Vous savez que les médecins aux États-Unis, ils peuvent avoir des armes à feu contre eux. C'est des conditions encore plus difficiles que nous. Que
exactement, la violence est plus importante aux États-Unis. Effectivement, les armes à feu, les violences aussi impliquent souvent des poursuites judiciaires. Les patients sont plus procéduriers aux États-Unis, les assurances coûtent plus cher. Et on s'attendait à ce que le système français soit plus protecteur et que les médecins français soient mieux protégés sur le plan du burn-out.
Alors quand vous parlez de burn-out, de quoi vous parlez exactement? Quels sont les critères que vous avez retenus pour voir comment allait le corps médical?
Alors, il y a une définition très précise du burn-out, c'est la présence de trois signes qui sont d'une part l'épuisement émotionnel, donc c'est le fait de commencer à devenir irritable, de commencer à crier pour un oui ou pour un non, la perte de l'accomplissement personnel, c'est-à-dire le sens que l'on donne à ce que l'on fait, et la déshumanisation du soin, c'est-à-dire commencer à traiter des cas plutôt que des patients, donc c'est la perte de l'empathie.
Alors, un médecin sur deux, c'est en règle générale. Est-ce qu'il y a des spécialités plus touchées par le burn-out?
Alors, ce qu'on a trouvé dans cette étude, c'est que c'était les urgentistes qui étaient les plus touchés. Ça, on s'y attendait parce qu'on avait déjà des indicateurs dans des études précédentes, parce que les urgentistes sont plus exposés à la population générale. Hein, donc, n'importe quel patient peut aller aux urgences directement. Il peut y avoir des abus de consultation, donc c'est l'engorgement des urgences qui est bien connu. Et puis, les urgentistes ont à gérer l'imprévu, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir à la fois des gardes plutôt calme ou au contraire un engorgement très important, ce qui conduit donc à un stress très très difficile. Et puis il faut préciser aussi que les urgentistes ont des alternances de garde de jour et de garde de nuit, comme on l'a vu dans l'extrait d'Hippocrate. Et ce rythme coupé est un facteur de risque d'épuisement très important.
Et alors Guillaume Four, justement les causes de ce burn-out généralisé, là vous les avez bien identifiées aussi pour l'étude?
Donc il y a les causes que je viens de citer, donc qui sont vraiment à cibler en priorité. On s'attendait à trouver aussi des taux de burn-out plus importants chez les chirurgiens et les anesthésistes, mais ça n'a pas été confirmé par l'étude. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de burn-out dans les autres spécialités, hein. Ça veut juste dire que les urgentistes sont encore plus à risque. On a dit c'est 57% pour les urgentistes versus 49% pour la moyenne des médecins. Il faut préciser aussi que toutes les spécialités n'ont pas été explorées, parce que la psychiatrie n'apparaissait pas dans les études, alors que nous avons publié l'année dernière une étude sur les internes en psychiatrie qui étaient plus en souffrance que les autres internes de médecine. Et d'une façon générale, il faut vraiment se pencher sur l'organisation de l'hôpital. On a vu dans l'actualité notre président qui parlait de l'école et de l'hôpital comme priorité pour notre société. Effectivement, il est très important de rappeler que la pénurie de médecins à l'hôpital engendre aussi de l'épuisement professionnel et donc altère la qualité du soin qui est délivré aux patients.
Alors, est-ce qu'il y a des solutions ? On est un peu dans une impasse sur cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien des gens qui nous soignent ?
Alors, d'une part, il y a l'amélioration de l'effectif à l'hôpital, c'est-à-dire donc des médecins, des infirmiers en nombre suffisant pour assurer notamment les tours de garde, hein, parce que là, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a énormément de gardes par médecin, parce qu'il y a un manque de médecins, aussi une hémorragie de l'hôpital. Les médecins partent de plus en plus s'installer parce que justement les conditions d'exercice dans le service public sont de plus en plus difficiles. Donc ça, ce sont des mesures politiques. Et puis au niveau de l'individu, c'est-à-dire au niveau du médecin, je suis en train de mettre en place, de développer à l'Université de Marseille une formation pour proposer, en complément dans les études médicales, on apprend le savoir, on apprend le savoir-faire, mais on n'apprend pas le savoir-être. Et ça, c'est très important. Donc, savoir comment communiquer de façon non-violente, comment recevoir l'agressivité et la réguler sans être impacté à titre personnel, savoir identifier ses propres valeurs dans son travail et comprendre quand est-ce qu'on est en accord avec ses valeurs ou qu'on n'est plus en accord avec ses valeurs et mettre en place des actions précises sans dériver dans le burn-out qui va conduire ensuite à l'anxiété, la dépression et les addictions par exemple.
Et on imagine comme ça que les médecins, c'est pas les premiers à aller demander de l'aide, bizarrement, c'est un peu des cordonniers mal chaussés, non ?
Exactement, les médecins ont beaucoup de difficultés, alors déjà à s'auto-diagnostiquer, ça c'est normal, hein, c'est-à-dire que on est toujours meilleur pour voir le problème du voisin que chez soi, et puis il y a aussi une espèce de culpabilité à dire j'ai des difficultés dans mon métier alors que les autres s'en sortent et moi je n'y arrive pas, je commence à m'épuiser. Il faut rappeler aussi que les médecins sont des êtres humains, donc ils ont leur propre vie à gérer, et donc gérer une vie personnelle avec une vie professionnelle qui est extrêmement prenante. Je rappelle que la plupart des médecins travaillent plus de 70 heures par semaine, donc ça, ce sont des choses très compliquées pour un être humain, et on demande de plus en plus de qualité au médecin. On lui demande d'être toujours souriant, empathique, d'être bon, performant technicien dans une médecine de plus en plus compliquée. On lui demande de savoir parler anglais, de pouvoir faire des collaborations internationales. Ça devient de plus en plus dur.
Merci beaucoup Guillaume Faux. Donc il faut soigner les soignants maintenant, finalement. Merci en tout cas, et étude à découvrir, publiée donc cette semaine. Merci à vous, Héloïse Rambert. À lundi. Alors
à lundi,
bon week-end, Héloïse.
Bon week-end.